Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde en RTL Soir.
Spéciale élection américaine.
Voici Stéphane Carpentier, Laurent Tessier, Brice Dugény, Greg Caranoni, Cyprien Sini et Marie Mollet. C'est qui ça, Marie Mollet?
T'inquiète, elle est avec moi, elle remplace Céline.
Bon, et donc, Marie Mollet.
Formidable. Vous commentez, vous réagissez pendant 45 minutes, évidemment. Vous avez à disposition le compte Twitter, la page Facebook de l'émission. Soyez tous les bienvenus. C'est vrai que c'est un peu particulier en raison de l'actualité. Pareil qu'il y a une élection américaine. 19h18, les amis, avec Cyprien Sini, voici le sommaire.
Oh my god, le D-Day, le rush, la minute M. Bah, sauf qu'en fait que non, hein. Ça fait 3 jours que c'est imminent, mais ça compte et recompte encore. Vous l'aurez compris, on met le Stetson et on prend la Ford Mustang direction les USA ce soir. On sera en direct avec l'un de nos correspondants, Philippe Corbet, pour tout comprendre et tout savoir de cette élection qui n'en finit plus. On défait le monde sous la bannière étoilée, mais à l'architecture préservée. Le loser, le grand perdant de la semaine, sauce Big Mac avec Marie Mollet.
Et avec le Premier ministre slovène, le seul leader politique au monde à avoir félicité Donald Trump pour sa victoire, peut-être un peu vite.
Le droit de suite, le billet retour de Brice Dugény ce soir, Brice. Coup d'œil dans le rétro du pick-up sur les grandes décisions internationales de Donald Trump.
Oui, si Joe Biden est réellement élu, pourra-t-il et voudra-t-il tout défaire ?
En écoutant On défait le monde, vous découvrirez aussi 3 infos pour briller avec l'élection américaine. Et puis on prendra quand même un peu le large. Dimanche, c'est le départ du Vendée Globe. Et dans On défait le monde, on a décidé de suivre un novice qui part pour son premier tour du monde en solitaire. On sera avec lui, avec le vent, les embruns. Et en toute fin d'émission, ce sera juste après le cadeau. Parce qu'évidemment, même si c'est une émission spéciale, on vous offre quand même un magnifique cadeau. 53 livres pour occuper votre confinement. Oui, 53, parce que c'est la 53e émission. We Defeat the World, Season 2, Episode 11.
Allez hop, on y va, on rentre pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
Ça en voit quand même un peu moins du coup. Hein.
Ouais, c'est qu'on aurait
on défait le monde. Ouais, le temps, en RTL Soir.
Un peu l'accent d'Alba Ventura, ou c'est pris ensemble. C'était cadeau. Le surf de la semaine avec vous.
Ah bah yes, hein, surtout un surf spécial. It's pas tout à fait done. It's not complètement fait. Hein.
Ah, c'est pas vrai.
Bah mais oui, voilà. Il y a encore les experts Las Vegas qui sont en train de recompter et de recompter les votes du Nevada pour la 6e fois. Mais bon, considérons que c'est presque gagné pour Biden, selon les experts. En tout cas, j'ai écouté le journal tout à l'heure. Et c'est peut-être le moment de prévenir Joe Biden, qui va devenir président des États-Unis d'Amérique. Non, parce que, à plusieurs reprises pendant la campagne, on s'est quand même demandé s'il était vraiment au courant de ce qu'il était en train de faire. Il a quand même dit ça.
I'm running as a proud Democrat. For the Senate.
Je me présente au Sénat, puis il l'a redit un peu plus tard.
My name's Joe Biden, I'm a Democratic candidate for the United States Senate.
Non, Joe, c'est pas le Sénat. C'est pour être président, la Maison Blanche. Tu sais que tu es en meeting, the White House, tout ça. Non, c'est vrai qu'il est étonnant, ce Joe, en meeting. Hein. Il a quand même confondu sa femme avec sa sœur aussi. Hein. Ah, il monte sa sœur en disant voici ma femme, et puis alors il monte sa femme qui est à côté en disant voici ma sœur. Bon, et puis alors, quelques jours plus tard, hein, il y a 2 jours. Il a voulu présenter à la foule sa petite fille en disant « Voici mon fils, Beau Biden, son fils qui est mort. » Ah, sacré Joe hein.
Il a passé sa vie à multiplier les gaffes. Et là, effectivement, maintenant, ça commence à devenir un problème.
Ah bah c'est sûr que ça, s'il confond le bouton nucléaire avec la lumière de la salle de bain, ça va être un souci. Après, sur la forme, hein, sur la façon de gouverner, avec Trump, on a quand même un bon entraînement. Hein. Du « good training », comme on dit aux States. À 2 doigts de déclencher une guerre nucléaire.
On dit vraiment ça, pardon.
Ouais, « good training », il faudra demander à Philippe Corbet. Enfin, il était à 2 doigts de déclencher une guerre nucléaire avec son pote sud-coréen, nord-coréen, dites donc.
Rocket Man is on a suicide mission for
Kim
himself.
Kim Jong-un, qu'il surnomme devant l'ONU Rocket Man, l'homme fusée, complètement roulé pendant 4 ans, Donald. Sur les surnoms, une sénatrice aux origines amérindiennes.
They call her Pocahontas.
Pocahontas, that's
Pocahontas, l'indienne de Disney, rien que ça. Tim Cook, le patron d'Apple, qu'il appelle carrément.
We appreciate it very much, Tim Apple.
Ouais, Tim Apple, c'est plus simple. Un président capable d'expliquer à des professeurs de médecine comment vaincre le coronavirus, eh oui.
J'ai l'impression que le désinfectant aussi détruit en 1 minute le virus. Peut-être qu'il faudrait en injecter dans le corps. Ça me paraît intéressant comme idée.
Non bah oui, pourquoi pas avec du gel hydroalcoolique aussi, ou d'annoncer à la télé qu'il vient de bombarder la Syrie, mais de se tromper de pays au moment de le dire.
We've just launched 59 missiles heading to Iraq.
Well, you headed to Syria.
Yes, heading toward Syria.
Ouais, Irak, Syrie, c'est pareil, de toute façon c'est loin quoi. Un ovni à la Maison Blanche qui, quand il a pris ses quartiers dans sa demeure présidentielle il y a 4 ans, a eu ce moment d'extase sur un truc bien particulier, comme nous le racontait Philippe Corbet.
Il est en admiration devant les téléphones, je le cite, « ce sont les plus beaux téléphones que j'ai jamais utilisés de ma vie ».
Ouais, le gars devient président de la première puissance mondiale et ce qui l'impressionne le plus, ce sont quand même les téléphones, une certaine candeur. Hein. Étonnant personnage au vocabulaire, étonnant aussi pour un président, comme quand il parle des stars qui ne l'aiment pas, comme avec le rocker John Bon Jovi.
And John Bon Jovi, every time I see him, he kisses my ass.
Oh. Alors pour rester plus poglu que lui, Bon Jovi qui me lèche les fesses, hein, dit-il. Bon, il dit pas comme ça, mais bon. Alors oui. Jusqu'à ses derniers pas de danse vers les Village People lors de ses derniers meetings, pour réussir à nous impressionner et nous surprendre, s'il finit par être élu, il va avoir du boulot, Joe Biden, quand même. Hein.
Surf de ce vendredi avec du Biden et du Trump dedans, signé Cyprien Signy, il est 19h24.
RTL Evening, we defeat the world.
Allez, c'est d'actualité, on file aux États-Unis.
Ouais, Philippe qui ne dort pas depuis 4 jours, Philippe Corbet, qui est avec nous en direct le matin, le soir, le midi aussi. Bonsoir Philippe.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bon, alors est-ce qu'il y a une question, on se demandait en préparant l'émission, à laquelle vous n'avez pas encore répondu ou qu'on vous a pas encore posé depuis 3 ou 4 jours sur RTL?
On aimerait vous faire plaisir, vous pouvez la choisir.
Non, je sais pas, vous avez une question à me poser peut-être, non?
Bah, on en a plein des questions.
Comment vous tenez? Qu'est-ce que vous mangez?
J'ai honte en plus, c'est pas des trucs très bons pour la santé. J'ai mangé tous les matins, j'essaie de manger au moins un bagel. Vous savez, une espèce de brioche new-yorkaise avec aux oignons et sur lesquels on met du fromage à tartiner. Donc voilà, j'essaie de manger ça avec du café, mais c'est pas très bon. Ouais. Et puis surtout le sommeil, ça, c'est pas très bon non plus.
Bah, alors déjà un point sur la situation, ça a pas évolué là depuis la dernière demi-heure. Okay.
Si, c'est-à-dire que l'écart, l'avance de Joe Biden en Pennsylvanie continue à s'accroître. À chaque fois qu'un comté annonce de nouveaux résultats, eh bien voilà, ça s'accroît. On est environ à 13 000 voix d'avance. C'est en train de s'accentuer. On vient de voir là d'ici il y a à peu près 20 minutes le maire de Philadelphie, parce que c'est à Philadelphie qu'il y a le plus de dépouillement en ce moment, et c'est la ville qui pourrait faire basculer l'élection. Le maire de Philadelphie vient de dire, écoutez, il est temps que le président mette sa culotte de grand garçon, quoi. Ils reconnaissent qu'il a perdu. Donc voilà, c'est une sorte de moment un peu d'attente, puisque tout le monde a compris ce qui est en train de se passer. À tout moment, les grands médias américains peuvent décider de dégainer, de dire voilà, pour nous, maintenant, c'est fait, Joe Biden a suffisamment de grands électeurs pour être désigné président élu des États-Unis. Mais ça fait 4 heures qu'on attend.
Et est-ce qu'aux États-Unis, il y a une voix qui fait autorité là-dessus? Par exemple, en France, on a le Conseil constitutionnel qui déclare qui a gagné, qui a perdu. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est la Cour suprême? Comment ça se passe?
Oui, mais on n'en est pas là du tout. Parce que, en fait, là, pour l'instant, le système électoral américain fait que, pour l'instant, les Américains n'ont pas voté pour leur président. Ils ont voté pour désigner des grands électeurs, État par État, qui, mi-décembre, désigneront le président. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'on parle autant des 270 grands électeurs, parce que pour l'instant, on en est là à combien de grands électeurs sont désignés pour Trump ou pour Biden.
Et comment vous faites pour vous informer, pour être partout à la fois? On rentre un peu dans les coulisses, regarde. Là.
Oui, mais... surtout, Philippe, pardon, pour compléter la question de Cyprien, c'est qu'on voit qu'en fonction des médias américains, en fonction des sources, que ce soit AP, que ce soit CNN, il n'y a parfois pas les mêmes chiffres. Donc, comment vous faites?
Alors, ce qui se passe, donc AP, Associated Press, c'est la grande agence américaine, l'équivalent de l'AFP, si vous voulez, qui depuis 1848 donne les résultats et font référence. En 2016, on a annoncé officiellement la victoire de Donald Trump quand AP a donné la Pennsylvanie et donc la Maison Blanche à Donald Trump. Donc c'est à peu près ce qui va se passer dans les prochaines heures. Pour l'instant, AP, il y a quelques minutes, nous disait on va attendre qu'il y ait 0,5% de voix d'écart en Pennsylvanie pour donner le résultat. Mais d'autres chaînes peuvent dégainer sans AP. Et donc c'est vrai qu'on a vu un truc très étrange dans la nuit électorale, puisque donc c'était assez figé. Et il y a à un moment donné, Fox News, donc la chaîne préférée du président, puis AP ont donné l'Arizona à Biden. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pour la première fois un État qui avait voté Trump était renversé par Biden. Et donc, à partir de ce moment-là, ça bloquait le chemin vers la réélection de Donald Trump. Fureur à la Maison-Blanche, et ils ont même appelé le propriétaire de Fox News pour se plaindre à ce moment-là.
Philippe, on va vous retrouver dans quelques instants, bien sûr, pour la suite de ce On défait le monde très américain, vous l'avez bien compris, en ce vendredi. En attendant toujours le verdict et en rappelant que Joe Biden doit prendre la parole dans les prochaines heures depuis son QG. 19h28, restez là, la première info pour briller, c'est après ça.
RTL Evening, we defeat the world.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller.
Special Election Day.
Un super habillage, bravo Greg et à toute l'équipe. Première info pour briller, donc ce soir, c'est Marie Mollet qui a les honneurs de tout ça. Ça concerne donc les États-Unis et l'histoire des deux mandats.
Oui, aujourd'hui, aux États-Unis, la règle est très claire. Un président ne peut pas rester plus de deux mandats à la Maison-Blanche. C'est inscrit noir sur blanc dans la Constitution. C'est le 22e amendement instauré en 1947. Avant cela, rien n'était écrit, pas d'interdiction juridique, mais il y avait une règle d'usage, une coutume, si vous voulez, qui faisait que tous les présidents raccrochaient au bout de 8 ans, tous sauf un, Franklin Roosevelt, qui remporte 4 élections d'affilée et occupe 4. La Maison-Blanche pendant 12 ans. À sa mort en 1945, un nouvel amendement est donc adopté pour graver dans le marbre cette limite des deux mandats. Après, il faut céder sa place.
Incroyable.
Bien, c'est
incroyable.
Ça vous plaît ça, hein?
Ouais, j'adore ça. Il savait Philippe Corbet ou pas, hein, ça?
C'est une belle première.
Oui, mais précisons quand même qu'il y a...
Oh non, ça c'est vache. Non, Philippe, non, stop.
Ça c'est vache, Philippe.
Oui, stop. Non, c'est sa première.
Moi je veux la précision.
C'est-à-dire qu'il est réélu en novembre 1940 quand l'Europe est en guerre et qu'il y a tout un débat sur faut-il ou pas entrer en guerre. Et à ce moment-là, il y a toute une pression populiste aux États-Unis, notamment Charles Lindbergh, qui envisageait de se présenter pour empêcher les États-Unis d'entrer en guerre dans la Seconde Guerre mondiale. Philippe Ross a écrit un superbe roman là-dessus qui s'appelle Contre l'Amérique.
Et c'est trop long pour une info pour briller, Philippe.
Le fait que Roosevelt ait brisé cette tradition a sauvé l'Europe.
Je l'aurais dit si j'avais eu le temps, bien sûr.
RTL Evening, we defeat the world live from New York.
Philippe Corbet dans le bureau RTL, donc à New York. La question qu'on se pose, c'est il va se passer quoi
maintenant?
Maintenant, là.
Mais vous savez, je savais.
Ah, vous la posez aussi, ok. Non, la question, non, Philippe, c'est plutôt, admettons que, bon, finalement, les chiffres donnent Biden, qu'il soit élu président des États-Unis. Il ne sera investi qu'en janvier. Le 20 janvier. Merci d'être précis. Entre aujourd'hui et le 20 janvier, il n'y a évidemment pas de vacances du pouvoir, mais il y a un G20, par exemple. Est-ce que Donald Trump peut prendre une décision au cours de ce G20 ou au cours de notre réunion internationale?
Donald Trump est président, quoi qu'il arrive, jusqu'au... Enfin, à moins qu'il démissionne, mais est président, quoi qu'il arrive, jusqu'au 20 janvier, d'accord, à minuit, heure de Washington, donc 18h chez vous. Et donc, jusque-là, il a tous les pouvoirs, et s'il faut déclencher une guerre, il déclenchera une guerre. On appelle néanmoins le président dans cette situation où il est toujours au pouvoir, mais pas encore, sur le point de partir, un lame duck president, c'est-à-dire un canard boiteux, voilà. D'accord. C'est comme ça, donc il entre dans une phase maintenant où il est un canard boiteux. Et donc, il ne peut pas vraiment prendre de décision totalement définitive. Normalement, dans ce cas-là, parce que ça n'est que la troisième fois en un siècle qu'il y a un président sortant qui n'est pas réélu alors qu'il cherchait sa réélection. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'était George Bush en 92 avec Bill Clinton. Et ils avaient travaillé de façon très coordonnée pendant ces 2 mois et demi pour qu'il y ait une transition aussi fluide que possible, pour que les équipes se parlent, pour qu'eux se parlent, pour que s'il y avait une crise de sécurité nationale, eh bien le nouveau président élu, mais pas encore officiellement en fonction, soit associé, non pas aux décisions, mais en tout cas consulté et ne soit pas exclu de tout ce qui va se passer. Là, c'est totalement nouveau, quoi.
Donc là, c'est une situation jamais vue. Si jamais Biden venait à gagner.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, il y a un côté un peu ubuesque, ce côté Trump ne reconnaît pas sa défaite, Biden va parler ce soir, mais faut bien comprendre que des ennemis des États-Unis pourraient essayer de profiter de cette situation. Et donc, pour la sécurité nationale des États-Unis, ce qui est en train de se passer dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent est extrêmement important. Parce que c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Joe Biden pourrait ce soir dire je considère que je suis le président élu des États-Unis. Parce que le pire, ce serait qu'un ennemi des États-Unis profite de cette situation un peu confuse pour affaiblir, pour attaquer, pour Dieu sait quoi d'autre. C'est aussi pour ça que l'espace aérien autour de la maison de Joe Biden à Wilmington a été interdit cet après-midi.
Philippe, en quelques mots, est-ce qu'on peut imaginer que le Trumpisme soit devenu un mouvement politique aux États-Unis et donc qu'il survive à Trump? Et est-ce qu'on peut imaginer que dans 4 ans, Donald Trump ou quelqu'un issu de ce courant politique puisse à nouveau briguer la Maison-Blanche?
Oui, c'est un fait établi. Donald Trump, l'élection de Donald Trump en 2016 n'était pas un accident de l'histoire et le résultat, le très bon qu'il a obtenu cette fois-ci, même s'il n'est finalement pas réélu, le confirme. Et donc, même s'il part, s'il sera amer de partir, il part finalement sur une quasi-victoire. Donc il va y avoir une sorte de nuage trumpiste qui va dominer l'actualité pendant au moins 2 ans, où on va se demander tous les 4 matins, est-ce que Donald Trump va ou pas se présenter à la présidentielle 2024? Et si c'est pas lui, eh bien ça pourrait être par exemple, alors certains disent que ça pourrait être son fils, Donald Jr., qui la base du président Trump adore Donald Jr., c'est un peu son père en comment dire, qui aurait abusé un peu de caféine, si vous voulez, et je suis pas certain que ce soit que de la caféine, et ou alors ceux qui espèrent un trumpisme un peu plus souriant et doux, entre guillemets, et là qui soutiennent Ivanka Trump, sa fille qui est aussi conseillère à la Maison-Blanche. Donc voilà, on va avoir ce débat-là, quoi qu'il arrive, dans les 2, 3, 4 prochaines années.
Eh ben merci beaucoup Philippe. Alors s'il se passe quelque chose, merci à tout Philippe, moment, ouais. vous venez, vous avez antenne ouverte, comme on dit dans le jargon.
Il se passe quelque chose maintenant, je vais prendre un café pour tenir.
Non mais un truc, on a un jingle spécial aussi.
Breaking news on fait le monde.
Donc, si vous entendez ça, les amis,
c'est Philippe Cordé, là.
Merci Philippe, depuis New York. Vous restez là. La suite de On défait le monde dans un instant avec la deuxième info pour briller.
RTL Evening, we defeat the world.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller. Special Election Day.
Et le tout à 19h38, c'est la deuxième de ce soir, deuxième info pour briller avec Laurent, ça concerne Joe Biden.
Ouais, une anecdote, il n'a jamais caché avoir souffert d'un handicap de la parole depuis son plus jeune âge, le bégaiement. Le candidat démocrate a même déclaré en février dans une interview à CNN que c'est le seul handicap que l'on utilise pour humilier quelqu'un. Et plusieurs fois, il a raconté comment il avait réussi à dépasser cette difficulté. En fait, Joe Biden passait plusieurs heures devant un miroir à réciter des poèmes d'auteurs irlandais. Alors pourquoi? Parce qu'il est lui-même d'origine irlandaise. Et cette méthode, eh bien, lui a permis de s'exprimer plus facilement. Et aujourd'hui, il encourage les jeunes qui souffrent de bégaiement à prendre confiance en eux. Cela peut se surmonter, dit-il.
Belle info pour Boyer ce soir. Une deuxième signée Laurent Tessier à 19h.
Si Philippe n'était pas allé chercher un café, je pense qu'il aurait un truc à rajouter.
Il aurait pris une petite minute pour ajouter quelque chose. 19h39.
RTL. De la semaine.
Le loser, le grand perdant de la semaine, et c'est Marie Mollet qui s'en charge. Son baptême du feu, Marie qui remplace donc Céline Landreau ce soir et qui va se faire un malin plaisir de dénicher celui ou celle qui aurait mieux fait de rester couché cette semaine. Alors on quitte les États-Unis un instant, direction Primoz Roglic,
la Slovénie,
Pogacar, bien sûr, on en a parlé dans cette émission, la Slovénie. Marie, vous avez trouvé un sacré champion là.
Oui, un sacré champion, j'ai nommé Janez Janša, le premier ministre de Slovénie depuis mars 2020, homme fort de la droite dure, anti-migrant, anti-Europe, proche du premier ministre hongrois ultra-conservateur Viktor Orban, mais c'est avant tout un homme qui a du flair, un instinct, des intuitions, car c'est lui le seul chef de gouvernement au monde à avoir féliciter Donald Trump pour sa victoire supposée. Dès mercredi, on est encore en plein décompte des voix, Donald Trump annonce sa victoire. Dans la foulée, Monsieur Janša dégaine un tweet pour lui dire bravo.
Il est assez clair que le peuple américain a élu Donald Trump pour 4 nouvelles années. Félicitations au parti républicain pour ses bons résultats partout aux États-Unis.
Clairvoyant, Janez Janša, véritable Nostradamus slovène et qui surtout s'est montré particulièrement zélé. Même les plus proches alliés de Donald Trump n'ont pas osé. Alors vous allez me dire, pourquoi diable la Slovénie?
Hello,
vous l'avez reconnu?
It is wonderful to be here today with you and with my husband. I'm very proud of him.
Melania Trump, bien sûr, la First Lady qui est née et a grandi dans un village de Slovénie où nous emmène un reportage de France 3.
Le château médiéval surplombe la petite ville industrielle de Sevnica. C'est ici qu'a grandi Melania Trump. Ses premières années, elle les passe dans un appartement de cette baraque HLM.
Là-bas, elle est devenue en 4 ans une sorte de madone. Melania est partout, jusque dans les étals de pâtisserie.
Le tout nouveau gâteau Melania Trump trône au milieu du présentoir.
Ce gâteau contient des ingrédients de très bonne qualité qui me semblent lui convenir. Elle aime s'habiller en blanc, alors on a mis de la crème, du chocolat blanc et de l'or comestible.
Voilà. Melania Trump, voilà pourquoi Monsieur Yansa s'est précipité pour saluer bien bas la victoire supposée de Donald Trump, dont il a toujours été un fervent soutien. Ils forment ensemble le camp des conservateurs avec Viktor Orban ou le président Jair Bolsonaro. Et ils ont un point commun, la frénésie des tweets, sauf que cette fois-ci, le message de soutien s'est changé en grosse bourde.
Et donc, titre de loser de la semaine, évidemment.
Bon, loser, il s'appelle déjà ?
Je ne sais plus, mais j'ai retenu surtout que Brice Dugénie, grand reporter du service étranger, est désormais aussi...
Lecteur de tweets.
Très belle interprétation.
Je vous remercie.
On peut raconter les coulisses de cette émission. J'avais proposé de mettre un petit accent dessus, mais il n'a pas voulu.
Évidemment. Par respect pour les Slovènes, pardon.
19h42, on a un cadeau, bien sûr.
À l'instant que vous attendez tous. Give me the gift. Donne-moi le cadeau. Alors, on va vous le donner, le cadeau. On va vous l'offrir même. Attention, jingle.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Grégory Caradoni, notre monsieur cadeau, qu'est-ce qu'on offre ce soir ?
Eh bien, ce soir, nous allons offrir pas 11 livres, parce que c'est la 11e de la saison 2, mais 53 livres. 53 livres pour que vous puissiez vous détendre, vous changer les idées pendant ce confinement. Et pensez à nous, par la même occasion.
Ah bah oui, avec des livres sur Johnny notamment.
Il y aura évidemment des romans, des livres sur Mike Horn. Enfin, il y aura un éventail de lectures. Voilà. Voilà,
pour vous évader un peu. Alors, la question d'abord.
Oui.
Pour gagner
la
question. Que le monde entier nous envie.
La musique est très adaptée à la question.
Oui, c'est exprès. Alors, on parle beaucoup de cette élection américaine, hein, un poil. Et de ces fameux états pivots, de ces états qui font basculer les élections. Comment on les surnomme, ces états ? Est-ce que c'est A, les Rock'n'Roll States ? B, les Swing States ? Ou c'est les Cha-Cha States ? Est-ce que c'est les Rock'n'Roll States, non. Les Swing States ou les Cha-Cha States ? Vous avez la bonne réponse ? 32-10. On tirera au sort parmi les gagnants et évidemment, on essaiera de passer un coup de fil au vainqueur.
Ouais, évidemment. 3-2-1-0 à partir de top. Maintenant, le standard est accessible. 19h43.
RTL Evening, we defeat the world.
Pour le billet retour, quand on vous donne des nouvelles d'une info qui a fait la une et dont on ne parle presque plus.
Et ce soir, Bryce, on a décidé de revenir sur les grandes décisions internationales prises par Donald Trump pendant son mandat, de faire le bilan et de voir ce que ça changerait si la Maison Blanche avait un nouveau locataire.
Alors, sur la scène internationale, l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche va sûrement marquer un retour à des relations internationales sûrement plus apaisées et un retour des USA dans ce qu'on appelait, vous savez, le concert des nations, le multilatéralisme. Vous savez, depuis 4 ans, lorsqu'on croise des diplomates français ou des conseillers de ministres, par exemple, ils vous disent que depuis le début de l'ère Trump, en fait, tout est tellement possible tout le temps avec cette peur du tweet de Donald Trump qui met parfois fin à des mois, voire à des années de négociations. Et donc, au-delà de l'anecdote, ça rend très difficile la relation entre les pays et l'administration américaine. Et ça rend même impossible de prévoir les décisions qui vont être prises par les États-Unis. Tout le monde est suspendu depuis 4 ans aux humeurs de Donald Trump. On se souvient le retrait des troupes américaines au Moyen-Orient. Mmh. Un tweet qui dit oui, puis qui dit non. Le bombardement de l'Iran, oui, puis non. Peut-être idem. On se souvient pour l'accord sur le nucléaire. Bref, la gestion du monde devrait quand même gagner en sérénité, reprendre peut-être un cours plus normal des relations diplomatiques, en tout cas plus conforme a priori à ce que c'était avec son prédécesseur Barack Obama.
Et on sait déjà s'il y a des décisions importantes qui vont être prises ?
Oui, le retour des USA dans les accords de Paris, vous savez, les accords sur le climat, oui. Joe Biden s'y est engagé.
First thing I'll do as your president is rejoin the Paris Climate Accord which I helped put together.
La première chose que je ferai en tant que président des États-Unis, c'est rejoindre les accords de Paris sous le climat. Il y a 3 ans, le président Trump avait quitté avec fracas ces accords, les jugeant trop contraignants pour le développement de l'économie à l'américaine, préférant privilégier donc l'économie à l'écologie.
Et au niveau des relations avec l'Iran, ça pourrait changer aussi ?
Oui, là aussi, la politique de Donald Trump a été, vous savez, de quitter cet accord sur le nucléaire iranien et de remettre en place des sanctions économiques sur Téhéran. L'accord sur le nucléaire iranien, vous vous souvenez, c'était l'Iran s'engager à ne plus vouloir se doter de l'arme nucléaire et en échange, les Américains, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni s'engageaient, eux, à normaliser leurs relations politiques, diplomatiques et surtout commercial. C'est-à-dire que cet accord avait été négocié sous Obama, donc on peut imaginer que Biden va peut-être le reprendre ou au moins normaliser à nouveau ses relations, ce qui pourrait permettre, par exemple, au Royaume-Uni et à la France de reprendre des relations commerciales avec l'Iran. En exemple, l'industrie automobile française espérait beaucoup de cette ouverture et avec la sortie des Américains, tout a été refermé. Je peux vous dire qu'en Iran, les
Vous
Iraniens...
Vous étiez il n'y a pas longtemps.
Où j'étais au début de l'année, où j'ai échangé quelques SMS il y a quelques jours avec des Iraniens, ils attendent beaucoup, ils la suivent beaucoup, cette élection, parce que l'élection de Joe Biden pourrait représenter pour la jeunesse iranienne une ouverture, la réouverture de leur pays et des perspectives économiques qu'ils n'ont plus dans un pays qui chaque jour s'enfonce dans la crise. Et puis deux, trois autres exemples. L'OTAN, que Donald Trump a passé son temps à critiquer ces dernières années.
Ça coûtait trop cher.
Ça coûtait trop cher. Les autres pays devaient participer plus au budget. Ça peut-être, ça va être normalisé. Et puis la Corée du Nord, la Chine, des pays asiatiques avec lesquels Donald Trump a quand même entamé à chaque fois une espèce de rapport de force. Je t'aime, moi non plus. Ça aussi, ça pourrait évoluer. Dernière chose. En pleine pandémie de coronavirus, Donald Trump a décidé, vous savez, de retirer les financements de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, alors que les États-Unis en étaient les premiers contributeurs. Ça aussi, avec Joe Biden, a priori, ça devrait changer.
Et on garde un œil sur CNN Live et une oreille sur Philippe Corbet. S'il se passe quelque chose aux États-Unis, vous inquiétez pas, on sera là.
Oui, absolument. Il a pris son petit café, Philippe, on le retrouvera depuis New York. Brice Dugeny qui lit les tweets, mais qui décrypte aussi toute l'actualité dans son bi-retour. 19h47, la troisième info pour briller, c'est après ceci. À tout de suite.
RTL Evening, we defeat the world.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller.
Special Election Day.
C'est la troisième ce soir, c'est avec vous Cyprien.
Pourquoi les Américains votent-ils toujours le mardi, hein? Dans la plupart des pays du monde, c'est le dimanche, mais là-bas, c'est le deuxième mardi de novembre et c'est comme ça depuis 1845. Alors d'abord, début novembre, car à l'époque, fallait attendre la fin des moissons pour que les gens puissent se déplacer. Mais comme il fallait aussi souvent faire de longues distances en calèche jusqu'au bureau de vote, la votation devait avoir lieu avant les premières neiges. Ça, c'est pour début novembre. Et le mardi, car le dimanche, c'était le jour du Seigneur, donc on pouvait rien faire d'autre que de prier à l'époque. Alors, ils auraient pu choisir le lundi, vous me direz. Mais comme les distances jusqu'au bureau de vote étaient hyper longues...
Il fallait partir le dimanche.
Donc ça aurait foiré le dimanche.
Bien sûr.
Donc ils ont choisi le mardi, et ça n'a jamais changé depuis 1845.
C'était la troisième
Bam
info.
Allez bien, ça là.
Mais ça, c'est le problème. Ça devient vulgaire.
Ouais, exactement.
Soyez fiers de vous en silence.
Je peux pas.
Oui, c'est le problème.
8h-10.
Marche ou rêve.
Le moment où on met en avant les projets, les initiatives.
Et ce soir, Laurent, on quitte un peu les États-Unis, on prend le large.
Oui, on vous emmène sur un bateau du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Début dimanche, départ au large des Sables d'Olonne, c'est le plus prestigieux des courses. Au programme, le redouté Cap Horn, le Cap de Bonne-Espérance, la vie dans 4 mètres carrés, la chaleur, le froid, et vous allez découvrir la vie de ces marins, ces héros, pendant 3 mois minimum.
Bonsoir Maxime Sorel.
Bonsoir à tous.
Alors vous allez prendre le départ à bord de VNB Mayenne, c'est votre premier Vendée Globe, vous avez 34 ans et là vous êtes en quarantaine Covid oblige. Quel est le sentiment qui domine là tout de suite? C'est la peur ou c'est l'excitation?
C'est un mélange des deux, hein. C'est sûr que l'excitation, ça fait quand même 2 ans que je prépare ce projet avec mes équipes techniques, donc on a finalement envie de partir, mais en même temps de la crainte, de la peur, parce que c'est une découverte du parcours pour moi, et puis une découverte d'un nombre de jours assez important en solitaire aussi.
Ouais, c'est ça, un nombre de jours important, je le disais, ça dure au moins 3 mois. C'est votre plus long séjour en mer, vous avez fait quoi jusqu'à présent?
Et j'ai fait 24 jours en double sur une Transat Jacques Vabre, donc c'est une traversée d'Atlantique entre Le Havre et le Brésil. Fait en solitaire, c'était sur la route du Rhum, entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Et c'était 21 jours seulement, donc c'est à peine un quart d'un tour du monde.
Mais alors, vous dites, c'est la première fois donc vous allez passer autant de temps. C'est la première fois que vous allez aller dans ce qu'on appelle, je crois, les mers du Sud. Arrêtez-moi si je me trompe. Ça veut dire quoi? Que vous les avez d'abord découvertes sur des jeux vidéo? Ça veut dire que, comment on se prépare à ça?
Ouais, c'est presque ça, parce que la première fois que je suis allé dans les mers du Sud, c'était sur Virtual Regatta, qui est un jeu.
Ah oui, donc vraiment sur le jeu vidéo, ouais.
Et par les images et les récits de gens que je peux côtoyer aujourd'hui, ça met un peu la chair de poule.
Qu'est-ce qui fait peur?
C'est-à-dire, c'est des mers très hostiles, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de trafic maritime. Donc on se retrouve dans des zones où en fait personne ne peut venir nous chercher. On est à 7 jours des côtes les plus proches sur un certain point qui s'appelle le point Nemo. C'est le point le plus éloigné de toutes les terres. Et si on a un problème à cet endroit-là, clairement, on peut compter que sur soi-même.
J'ai les moins moites rien qu'en vous écoutant.
Les quoi, les moins
moites? Comment on fait très concrètement pour manger, pour dormir? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas vous faire des nuits de 10 heures non plus.
Mais non, 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 c'est vrai que le sommeil en solitaire, c'est du sommeil ce qu'on appelle fractionné. Donc, c'est des petites siestes de un quart d'heure à une demi-heure. Et en cumulé, on dort 4h30 par 24 heures.
Très béotien comme question, mais comment on fait pour aller aux toilettes?
C'est marrant, c'est plutôt les enfants qui me la posent cette question.
Tout le monde se la pose, je suis sûr.
Et nous, on est des enfants.
Eh ben, pour aller aux toilettes, on utilise tout simplement un seau en plastique. Moi, je mets des sacs à base d'algues dans le seau et on le jette directement à la mer. Et ensuite, ce sac, il se désagrège puisqu'il est à base d'algues. Faut juste pas lire le journal ou écouter un podcast un peu trop longtemps parce que ça se désagrège assez vite, les algues.
Je vais vous parler un petit peu d'argent. On a l'impression que c'est difficile de trouver de l'argent. Là, vous dites, ça fait 2 ans que je prépare ça. Est-ce que ça veut dire que depuis 2 ans, vous n'avez pas eu, d'activité rémunérée? Comment ça se passe? C'est-à-dire que votre sponsor depuis 2 ans, en gros, finance votre préparation, finance votre tour du monde?
Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai une société à la base. Je suis ingénieur en génie civil. Donc j'ai bossé, moi, 7 ans en tant qu'ingénieur. Et j'ai tout arrêté pour faire de cette passion un métier, donc coureur au large. J'ai une structure, une société avec des salariés qui travaillent pour moi. Et nos clients, ce sont nos sponsors. Et ils nous donnent de l'argent, effectivement, pour qu'on parle d'eux et qu'on réalise toutes ces courses. Mais je vous garantis que je gagne 5 fois moins bien ma vie en tant que coureur au large qu'en tant qu'ingénieur.
Maxime Sorel, donc vous êtes sur VNB Mayenne. Vous partez sur le Vendée Globe dimanche et on va vous suivre très régulièrement dans Défait le Monde avec tous nos auditeurs. Et on vous souhaite bonne chance ou bon vent, je sais pas ce qu'on dit dans le monde maritime.
Ouais, bon vent, c'est bien. Ouais.
Allez. L'objectif, c'est quoi? C'est de finir, juste dernière chose?
Ouais, alors, moi j'ai un bateau d'ancienne génération, il est de 2007. Faut savoir qu'il y a quand même un bateau sur deux qui abandonne, hein. Il y en a 33 au départ. Et faut savoir aussi que depuis que ça existe, le Vendée Globe, il y a moins de 84 personnes à l'avoir fini. Il y a plus de 500 personnes à être allées sur l'espace. Et en fait, ce qu'on prépare, on peut se dire que c'est quasiment plus dur que d'envoyer quelqu'un sur la Lune.
Ouais, bah, on
croise. Donc finir, ça sera
bravo.
Déjà très bien.
Et bon vent, Maxime Sorel, à bientôt sur RTL dans Défait le Monde.
Merci, à bientôt.
Breaking news on Défait le Monde.
Ça y est, on a un président aux États-Unis. Ah non, je rigole.
On a une gagnante, c'est pas mal.
On a Béatrice en Moselle. Elle n'est pas présidente des États-Unis, mais elle a gagné les 53 livres. Bonsoir, Béatrice.
Beaucoup, merci infiniment. Vive les élections américaines.
Ouais, c'est quand même plus sympa les 53 livres que la Maison Blanche, non?
Ah ouais, j'ai pensé à vous pendant longtemps, vive Biden.
En tout cas, je rappelle la question quand même pour être sûr que vous le méritez, oui. Ces 53 livres. Oui, comment s'appellent les États qui changent? C'est les swing states.
C'était les swing states, oui, c'est ça.
Bon, très bien, bravo.
Merci beaucoup, merci infiniment.
On vous embrasse.
Bonne soirée à tous.
Merci de votre fidélité.
Protégez-vous, faites bien attention.
Ah ouais, à très bientôt. Merci d'être
bientôt.
Là. Juste un petit coucou à Philippe Corbet, le café était bon. Philippe, tout va bien à New York?
Oui, il a été interrompu par un communiqué de la Maison Blanche du président Trump. Je vais vous raconter ça dans le flash de 20h.
D'accord. Super. On vous avait dit de faire court, hein. Vous avez respecté. Bravo.
Ça s'appelle un teasing en version américaine. Toute l'équipe revient vendredi prochain.
À la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao.
Goodbye.
RTL Evening. We defeat the world.
Winamax, les meilleures cotes.
Et comme chaque semaine, on retrouve un gagnant Winamax. Et ce soir, c'est Christophe de Manas qui est avec nous. Salut Christophe.
Salut Raymond.
Alors Christophe, avec...